Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du 8 mars 2023. Avec aujourd'hui Dominique et Françoise, comme d'habitude, et puis Nadine aussi, qui va lire un certain nombre de passages, et puis Lamine à la technique. Merci. Donc hier, 7 mars, a été une grande journée très réussie de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Et aujourd'hui, 8 mars, la mobilisation continue avec la grève reconductible votée dans plusieurs secteurs. Et nous, nous continuons le combat, bien sûr, sur tous les fronts. Et je vous rappelle quand même, on va en parler pendant une heure, que le 8 mars reste la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons donc choisi un livre qui nous permet d'affirmer et de revendiquer les droits des femmes, plus précisément dans le cadre du mouvement MeToo. Le hashtag MeToo, vous le connaissez, ce mouvement, ce fameux hashtag MeToo, ce dièse MeToo, qui depuis 2017, sur un plan international, regroupe toutes celles et tous ceux qui dénoncent les agressions et les violences sexistes et sexuelles. En 2022 est paru en France un recueil MeToo Théâtre. C'est ce recueil que nous vous présentons aujourd'hui, car il énonce et explicite de façon remarquable les facettes multiples des humiliations ou des agressions rencontrées encore beaucoup trop souvent dans le milieu intellectuel, dans l'édition, dans les médias et bien sûr dans le spectacle vivant, puisque c'est le cœur de ce recueil. Alors, ce recueil, il est constitué de textes très différents, certains vraiment conceptuels, d'autres beaucoup plus factuels, puisque humiliation, ségrégation, violence revêtent des caractères eux aussi très différents les uns des autres. Nous vous lirons de longs extraits, de quelquefois très larges extraits, en fait, puisque... Sans interruption d'analyse, on donnera la parole aux témoignages ou aux analyses de nos camarades du milieu du spectacle vivant. Et ces témoignages, ils sont suffisamment démonstratifs, il n'y a pas vraiment besoin de les commenter. La liste des noms des autrices, elle vous est donnée dans le texte d'accompagnement avec le podcast de l'émission. Et l'éditeur, on en parle de temps en temps, et je voudrais bien en reparler aujourd'hui à ce propos, c'est Libertalia. Libertalia, notre petit libraire et éditeur de Montreuil qui continue à faire vraiment des choses intéressantes. Alors on va donner la parole aux femmes. Et puis... tout à l'heure, on vous fera une pause musicale bien féministe aussi. Donc, on va passer à la lecture. C'est comme d'habitude Françoise qui commence. Et puis, je la relayerai et Nadine pour un ou deux textes. Nadine, nous la retrouverons pour d'autres lectures dans les semaines à venir. Voilà.
Nous sommes actrices, autrices, metteuses en scène, scénographes, administratrices de production, chargées de diffusion, techniciennes. Toutes, nous travaillons dans le secteur du théâtre. Que nous soyons exposées sur les plateaux, que nous participions à façonner sa pensée et sa forme esthétique, que nous soyons en charge de sa construction administrative ou de production, toutes, nous faisons un même constat. Si le théâtre a une fonction politique, c'est qu'il donne à voir le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons pour mettre au jour ses mécanismes, ses dysfonctionnements, son injustice, autant que pour célébrer l'insondable, l'invisible et le merveilleux. Qu'il donne à voir le monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être, selon les écoles et les objectifs, il a toujours une vertu sociale et collective. Dans le temps de la représentation, il montre le monde qui nous traverse et que nous traversons, de la petite anecdote à la folle épopée, dans le creux d'une expérience commune qui porte à la conscience des spectatrices la beauté et la noirceur dans un même mouvement cathartique. Pourtant, ironie cynique, bien souvent, ceux qui le fabriquent ne sont pas exempts de ces défaillances qu'ils prétendent montrer, dénoncer, voire combattre. En ce sens, le théâtre est bien un miroir du monde. Il porte dans sa structure même et dans sa fabrication du plateau au mode de production le même système de domination patriarcale que dans le reste de notre société. Cependant, vu de l'extérieur et pour celles et ceux qui y mettent tout juste le pied, les métiers du théâtre portent en eux la promesse de la joie, de l'intelligence, des rencontres enrichissantes. On y projette un univers professionnel empreint de magie, de respect, un milieu humaniste où la pensée s'interroge. On y trouve sa famille, son ou ses maîtres, on s'y construit, on s'y déconstruit et on y apprend à penser plus grand que soi. On y boit, on y danse et on y fait beaucoup la fête. Si c'est effectivement tout cela, notre secteur d'activité professionnelle est aussi un monde d'élus et de cooptation dans lequel les places sont chères, un monde qui a ses codes parfois difficiles à manier, ses modes qui passent et laissent les gens sur le carreau, ses endroits cachés de poussière et de saleté, un monde qui parfois exclut et qui le paye cher. Il n'y a qu'à regarder les salles qui se vident et le manque de mixité socioculturelle, aussi bien dans la salle que sur la scène, un monde qui reproduit souvent en interne une logique capitaliste et hiérarchisée, un monde où les trahisons, les coups bas, les violences sociales, racistes et sexistes perdurent. Un monde de pouvoir dans lequel certains hommes ont appris à utiliser leurs privilèges systémiques, semblent intouchables, prêts à tout et bien souvent parviennent à leur fin. À la suite de la publication d'un article de Cassandre Leray dans le journal Libération sur ce que nous appelons l'affaire Didim, chacune, guidée par une nécessité et une conviction intime qu'il fallait que les choses changent, nous nous sommes rassemblées. Nous n'en pouvions plus de ces affaires d'hommes qui abusent de leur pouvoir, de l'omerta qui règne dans notre milieu, de ces situations de domination structurelle, de ces remarques sexistes omniprésentes, de ces viols et agressions sexuelles dont la majorité reste encore cachée, classée, sans suite. Nous n'en pouvions plus que les victimes se sentent seules, isolées, dévorées par une injustice entretenue par notre silence collectif et des sanctions quasi inexistantes. Réunis par notre colère et l'injustice structurelle de notre environnement professionnel, nous avons décidé de prendre la parole pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes que nous subissons de manière systémique et nous avons lancé le hashtag #DièseMeTooTheatre sur les réseaux. Une déferlante de témoignages a ensuite afflué, attestant d'une réalité concrète. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des cas isolés. Nous sommes légions à subir et à vouloir dénoncer la sexualisation constante de nos corps, l'écrasante dominance de la présence des hommes aux commandes et en possession des moyens de production, l'entretien de cette chimère qu'est la zone grise et qui, dans notre milieu probablement plus qu'ailleurs, fait rage. Parce que nous travaillons avec nos corps et nos émotions, certains voudraient faire croire que la vie et le plateau se mêlent, qu'il est délicat de faire la part entre les sensations parfois très puissantes que nous éprouvons sur une scène ou dans un cours de théâtre et que le désir d'un metteur en scène ou d'un professeur pour son actrice peut faire partie du métier. Les enjeux de séduction perturbent quotidiennement notre travail, car c'est vrai, un projet se discute parfois au comptoir d'un bar à Paris ou Avignon, car les rencontres et le réseau tiennent souvent à la capacité que l'on a de se vendre et à séduire. C'est d'ailleurs ce que l'on nous apprend dès l'école.
Eh oui, sur un plateau, comme dans un bureau ou dans l'espace public, non veut dire non. Et être en position de pouvoir, qu'il soit physique, économique ou hiérarchique, modifie le rapport de force et empêche parfois celles et ceux qui en sont les subordonnés d'être en capacité de dire non. Peur, blacklistage, exclusion des réseaux, précarité économique, autant de raisons qui bâillonnent. Posséder du pouvoir implique donc de prendre ses responsabilités et enjoint une nécessaire prise de conscience. Face à l'affluence des témoignages et des messages de soutien reçus, nous avons enfin pu nous sentir fortes, nombreuses et puissantes, et nous dire qu'ensemble, nous allions faire front. Les auteurs et autrices ont répondu présentes et ont pris la parole pour mettre au jour les processus de domination qui nous intimident, nous façonnent, nous subordonnent, nous abîment et nous détruisent parfois. Témoignages, soutiens, analyses, poèmes, récits, tribunes ont résonné fièrement sur la place du Palais-Royal. Par la suite, d'autres textes ont été écrits à la faveur des événements et ont continué à façonner le cheminement de notre pensée en action. Des mots chaque fois singuliers pour un mouvement collectif et sonore. Ce recueil en est le témoignage vibrant, vivant. Il affirme la nécessité d'un changement et d'une prise de conscience générale. Il met des mots sur une mécanique implacable d'invisibilisation et d'oppression. Nous avons choisi de les faire apparaître, ici, sans hiérarchie ni chronologie, la dramaturgie d'ensemble étant le mouvement de révolte lucide et de libération de la parole qui nous unit. Ce mouvement, hashtag, dièse, MeToo théâtre, libère la parole et porte à la conscience de tous et toutes l'ampleur du problème. Allié aux autres mouvements MeToo, il est un pas de plus vers un changement social profond et fait vaciller un système tout entier dont les violences sexistes et sexuelles sont à la fois le socle nocif et la douloureuse résultante dans un même continuum. Il permet aussi de lutter contre l'injonction au silence qui fabrique et maintient la culture du viol. Depuis, le mouvement continue. Il a donné naissance à des rencontres, des discussions, des actions, des espoirs, des perspectives, des articles. Il a mobilisé des associations, il a fait naître des prises de conscience citoyennes à l'échelle individuelle et collective qui dessinent une possible évolution à laquelle nous voulons croire. Il nous faut mettre collectivement la lumière sur les dysfonctionnements, former les regards, les consciences, pour que ceux et celles qui ont été élus pour nous représenter ne puissent plus ne pas voir et penser que cette lutte finira par disparaître, comme d'autres, à force de lassitude ou d'indifférence générale. Des mesures concrètes doivent être prises par l'État au ministère de la Culture et au ministère de la Justice. Croire les victimes relève d'une volonté politique et d'un constat statistique. Pour autant, dénoncer coûte. Parler ne laisse pas indemne et pèse en charge et en santé mentale. La dialectique pédagogique que nous devons déployer auprès de celles et ceux qui refusent l'évidence entame un temps précieux que nous devrions consacrer à faire notre métier, à créer. Témoigner expose et fragilise, réactive nos traumas et souvent nous contraint à justifier notre lutte et nos blessures auprès de ceux et celles à qui le système profite. Pourtant, aujourd'hui, c'est une nécessité. Alors, nous prenons la parole. Entendez-la, écoutez-la, emparez-vous-en, diffusez-la. Qu'il ne soit plus désormais possible de dire « nous ne savions pas ». Tout est là. Notre outil, c'est aussi cet ouvrage. Une arme politique, une arme que nous espérons performative. Un moyen de résistance. Bon, ben vous avez compris, c'était l'introduction. C'était l'introduction générale d'un certain nombre de textes et d'extraits sur lesquels nous allons revenir maintenant. Des textes que nous allons continuer à lire au fil des pages, au fil des témoignages. Tout à l'heure, les autrices de l'introduction ont fait allusion à une réunion place du Palais-Royal, c'était devant le ministère de la Culture, bien sûr, à Paris. Et maintenant, elles vont faire allusion à une autre réunion à Lyon, au Théâtre des Célestins. Et on va en savoir plus.
Nous voici réunis aujourd'hui à Lyon, au Théâtre des Célestins, pour célébrer un événement singulier. La déprogrammation d'un spectacle parce que son metteur en scène a été, voici un an, traduit en justice, accusé de viol. Cet événement est une grande première. Souhaitons qu'il ne reste pas isolé. Car le viol, le harcèlement, la violence verbale, physique, épistémique ne sont pas dans nos théâtres, sur nos scènes, dans nos coulisses, dans nos bureaux, dans nos écoles de théâtre, des événements isolés. Depuis cette matinée du 16 octobre, fraîche et ensoleillée, où nous étions rassemblés à Paris sur la place du Palais-Royal, nous le savons et nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Nous sommes nombreuses. J'ai peur d'avoir sauté une page, non ? Et nous ne sommes pas seuls. Ouvrons donc tout de suite des guillemets. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas oppression, forcément, mais un fait de nature. Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait pas là qu'entériner un fait de nature, que s'inscrire dans le décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur qui fait le louable effort d'écouter n'entend pas mieux. Nous devons cette leçon de Pierre Choderlos de Laclos. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire. Nous décidons, pour commencer, que nous ne nous laisserons plus donner de leçons. Le moment présent est-il celui d'une grande révolution? Des lendemains qui chantent, nous avons trop souvent déchanté. C'est donc plutôt la guérilla qui nous appelle aujourd'hui. Faisons l'hypothèse que la guérilla commence quand on n'accepte plus de se poser comme victime, quand la plainte, on la porte en justice, quand on refuse de s'inscrire dans le décor planté par l'oppresseur. La guérilla, c'est le harcèlement qui change de camp. Ainsi, nous tiendrons chacune, au jour le jour, heure par heure, le journal des paroles déplacées, des gestes inappropriés, des regards appuyés. Le vaste recueil de ces journaux personnels, publiés en ligne mensuellement, aura plusieurs effets désirables. Nous ne serons plus surprises par le surgissement toujours inattendu de ces micro-événements. N'étant plus surprises, nous saurons comment réagir. Les faits ainsi publiés, étant précisément situés dans le temps et dans les lieux où ils se sont produits, leurs acteurs étant précisément nommés, la honte changera de camp. Et la surprise aussi. Le très grand nombre des situations ainsi décrites, leur systématisme, empêchera que nous soyons soupçonnés de dénonciations calomnieuses. La multiplication des témoignages précis et circonstanciés leur donne crédit.
Voilà. Nous voulons aussi que tombe le masque du jeu colonial, car tout est lié. Les inégalités et discriminations s'alimentent les unes les autres. Sexisme, racisme et classisme, transphobie et homophobie, grossophobie, xénophobie, agisme, tout cela se conjugue. La tolérance aux petites vexations, la portion congrue à laquelle nous sommes réduites en termes de moyens, les empêchements à exercer nos métiers comme nous le souhaitons et parfois n'osons même plus le rêver, tout cet environnement dans lequel nous évoluons quotidiennement crée le contexte qui autorise les violences que dénonce aujourd'hui le mouvement MeToo Théâtre. Cependant, il ne suffira pas de dénoncer, il ne suffira pas de traduire en justice nos agresseurs. La justice est impuissante à rendre l'air respirable. Ainsi, c'est la décision du Théâtre des Célestins qui rend possible qu'aujourd'hui nous respirions librement, ensemble, à Lyon. Ailleurs, nos agresseurs sont sur les scènes, ils reçoivent honneur et récompense après que la justice est passée et s'est avérée impuissante à juger. Le classement sans suite ne signifie pas qu'il est considéré comme les faits sont faux, mais que les éléments probatoires sont jugés insuffisants. C'est notamment ce qu'a expliqué la presse, par exemple dans Libération. Alors, pour cette porte ouverte au blanchiment, s'engouffrent les directeurs de théâtre, les producteurs de cinéma, les membres de jury, tous ardents défenseurs de la solidarité des puissants contre les démunis. Voilà, cela doit cesser, cela va cesser. C'était encore une fois un texte un petit peu de réflexion et nous allons en venir maintenant, au-delà de ces rappels historiques, disons, à une vraie histoire. Et cette histoire, c'est Nadine qui va vous la raconter.
Pour dire c'est Michel, il faut le dire en faisant une petite moue. Vous avancez la bouche comme si vous parliez d'un enfant. Qu'est-ce que c'est attendrissant ? Et vous dites c'est Michel ? C'est ainsi qu'on le disait quand une personne venait à oser dire « Dis donc, il ne peut pas arrêter de me tripoter ?»«
Oh, c'est Michel !»
Ou alors une autre réplique plus intéressante encore. « Tu sais, Michel, il touche indistinctement les femmes et les hommes. »
« Ah oui ?»
Comme si ça ôtait son caractère sexuel à l'affaire, comme si ça ôtait surtout son caractère abusif. Il a fallu du temps, il m'aura fallu du temps, il nous aura fallu bien trop de temps pour comprendre que toucher les seins, les fesses, embrasser de force, et par là je veux dire sans forcément de violence physique, simplement avec la certitude que le corps de l'autre est un terrain de jeu, un objet à toucher, à embrasser. Que faire ça sans que l'autre ait manifesté ses sentiments de sujet ? Ou bien malgré son désaccord, son non ? Son « c'est mes seins, Michel !» Il a fallu du temps pour intégrer que c'était tout bonnement des agressions sexuelles. Ce n'est pas un jeu d'insister quand l'autre a dit non. Ce n'est pas un jeu quand on ne joue pas ensemble, quand les règles ne sont pas les mêmes pour les deux, quand les droits ne sont pas les mêmes pour les deux. On parle des actrices, des jeunes actrices, on parle des femmes vulnérables, dont la position sociale en tant que femme et en tant que comédienne les rend vulnérables. Il y a aussi les administratrices, les assistantes, les rédactrices, les ouvreuses, les chargées de communication ou de relations publiques, les autrices, les metteurs en scène, et j'en passe. Celles qui sont parties parce qu'on les avait coincées, comme une imprimante. Celles qui ont répliqué quand la main d'un directeur venait dans la poche pour voir si suffisamment de billets avaient été vendus. Celles qui sont restées en se maintenant quotidiennement sur leur garde. Celles qui se sont retrouvées coincées dans un bureau et celles tripotées au vu et au su de tout le monde, à qui on a répondu aussi « ça n'avait pas l'air de te déranger ». Il est bien ce mouvement, il est nécessaire. Et maintenant qu'on y est là, tout ensemble, j'ai envie de dire pardon aux filles qui sont allées au charbon toutes seules, qui se sont vues refoulées par les inspecteurs, puis dans un classement sans suite. Celles qui ont quitté le métier quand leur agresseur présumé pouvait continuer. Celles qui se sont épuisées d'avoir parlé sans être écoutées. Celles qui se sont retrouvées à recueillir les témoignages des autres alors qu'elles hurlaient leurs plaintes solitaires dans un désert. Parce que porter plainte est un parcours du combattant. Il faut d'abord s'autoriser à penser qu'on est victime, se défaire de la culpabilité, se défaire de toutes ces phrases qui banalisent. Réaliser qu'on ne peut pas faire autrement, il faut commencer à parler, articuler, rassembler les morceaux décousus par le traumatisme. Et là encore, ce n'est qu'un début. Parce que ce qui suit, c'est la suspicion. Il va falloir prouver. Parole contre parole. C'est cela qu'a dit le procureur. Parole contre parole au sujet de cette plainte pour viol. Bien sûr, on n'y était pas. Bien sûr, il n'y a plus de preuves physiques. Bien sûr, c'était il y a si longtemps. Et on ne peut pas avoir un alibi pour prouver que l'autre avait envie, bien sûr. Mais parole contre parole, quand on sait que la personne abuse de son pouvoir sexuellement et pas seulement quotidiennement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer d'écoute, l'écoute des victimes ? Est-ce qu'il n'est pas temps d'abord de les protéger, de tenter de les comprendre, de leur dire... Vous pouvez parler ça. Ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. De sortir leur avocat d'un sentiment constant d'impuissance. Puis de détricoter tout le système de domination dont bénéficient ceux qui disent « Je ne suis pas un prédateur ». Car pour en venir à cette moue attendrie en parlant de Michel... mais en parlant de beaucoup d'autres hommes abusifs qui sont comme ça, qui ne peuvent pas faire autrement, qui sont de la vieille école, qui ne connaissent pas la différence de nature entre la drague et le harcèlement. Ces hommes-là ne sont pas des bêtes féroces, en tout cas pas forcément. En tout cas, je n'ai pas vu ça en eux. Ce sont des hommes qui ne semblent pas avoir intégré que toucher, c'était toucher quelqu'un. et que l'autre n'est jamais un territoire à prendre. Et on pourrait même parler de territoire et s'interroger sur le fait qu'on puisse le prendre. Mais en attendant, l'autre est autre. Et comme dans toute interaction sociale, on est obligé de le prendre en compte comme sujet, qu'il soit votre employé ou l'objet de votre désir, ou les deux. Et que si sa voix peut formuler un non, son corps sait aussi le formuler. Il suffit simplement de se demander ce que l'autre veut. Il suffit simplement d'écouter. Il suffit simplement de respecter l'intégrité. En fait, ce n'est pas si difficile. Faire cette moue attendrie, c'est excuser comme on excuse un enfant irresponsable. Porter plainte, c'est faire l'honneur de considérer l'auteur de ses actes.
Merci, merci. Eh bien, on va après ce témoignage, passer à la pause musicale. Mais avant la pause musicale, je voudrais quand même avoir une pensée pour toutes celles qui nous ont précédées. Par exemple, Simone de Beauvoir, par exemple, Gisèle Halimi, par exemple, Simone Veil, Germaine Tillion. Allez, on pense à elles, on continue le combat des femmes. Et pour la pause musicale, bien sûr, on vous envoie l'hymne des femmes avec une foule chantante assez rythmée, vous allez voir. Debout les femmes, debout les femmes, c'est aussi le titre d'un film qui va passer chez les Solidaires vendredi soir, vendredi 10. Ça doit être à partir de 19h. Regardez le site des Solidaires. C'est, C'est boulevard Longchamp, avenue Longchamp, je ne sais jamais. Donc, au local des Solidaires, la projection du film Debout les femmes, et puis bien sûr, un petit pot, un verre, des discussions, toujours très chouettes au local des Solidaires. Et donc, le film Debout les femmes, initié après le rapport parlementaire de François Ruffin, qui s'appelle Les liens sinon rien. Ne le manquez pas, hein, cette fois-ci ou d'autres, ça passe en général en diffusion militante. Donc ce film, d'après le rapport parlementaire de François Ruffin, c'est vraiment aussi un outil de témoignage sur précisément la situation des femmes qui font tenir le monde, bien sûr, qui font tenir la société et qui sont souvent mal récompensées. Alors, avant de continuer sur des témoignages ou des histoires, je vais revenir sur un aspect de nouveau, un petit peu conceptuel, d'une jeune metteuse en scène et autrice qui nous raconte à nouveau cette intention, pourrait-on dire, du mouvement MeToo Théâtre que ces femmes ont eu en se rassemblant. Nous nous sommes retrouvées un soir, réunis par notre colère. Nous avons 60, 50, 40, 30, 20 ans. Et les histoires que nous racontons sont les mêmes, exactement. Ceux qui nous ont harcelés, humiliés, embrassés ou touchés de force, ceux qui nous ont violés sont toujours là. Ils n'ont rien perdu de leur puissance. Nous sommes en colère, remplis de fureur, et nous tenons à leur dire que nous n'avons plus peur. Nous réclamons la justice et la vérité pour les victimes de toutes nos forces. Nous sommes à leur côté et nous voulons leur assurer que nous les croyons. Nous n'allons plus détourner le regard, nous n'allons plus jamais nous taire, nous n'accepterons plus l'inacceptable. Ce n'est pas acceptable que les violences sexuelles soient un rite de passage obligé pour faire notre métier. Nous devons protéger nos jeunes sœurs et nous devons protéger nos jeunes frères de ce que nous avons dû subir ou endurer. Nous devons, toutes et tous, ensemble, prendre conscience de notre force. Nous devons être des alliés. Ce n'est pas aux victimes de prendre en charge la profonde transformation qui doit avoir lieu dans notre secteur, comme dans la société entière. Les hommes, vous devez être à nos côtés. Rien ne pourra se passer si vous ne vous engagez pas avec nous. Nous demandons l'égalité. Ça fait des années que nous la demandons, et demander cela, ce n'est que demander justice. Cela ne réglera pas tout, mais cela ne laissera pas tous les pouvoirs entre les mains d'un groupe qui se protège. Et cela produira de nouveaux imaginaires auxquels se rattacher. Nous devons nous rassembler, nous retrouver, nous écouter, nous contredire même parfois, mais chercher ensemble comment on règle tout ça. Nous devons ouvrir des espaces de parole dans les théâtres nationaux, dans les centres dramatiques nationaux, pour qu'on puisse échanger autour de ces violences-là qui empoisonnent notre art. Nous devons le faire en toute sincérité, avec courage, sans résister à une juste remise en cause. Nous appuyer sur celles et ceux qui travaillent sur ces sujets-là depuis des années et comprendre toutes et tous ensemble comment ne pas reproduire encore et encore et encore les mêmes rapports de domination. Le défi commence, soyons prêtes et prêts à le relever. Nous en sortirons grandis. Alors, retour aux témoignages, retour aux histoires et à l'histoire. Je passe la parole à Françoise.
Tissa Davila Ben Salah.
C'est le texte.
C'est l'autre qui est marqué.
Non, là, ici.
Mes chères consoeurs de plateau ou d'écriture, mes sœurs de tous les secteurs, de tous les continents et de toutes ces mobilisations, mes sœurs faiseuses de fiction, mes sœurs de chair et de sang. Jusqu'ici, l'histoire, on le sait, ne nous désire pas. Elle désire nos corps. En tant qu'individualité créatrice, candidate légitime à occuper librement la moitié de l'espace social, politique ou artistique, l'histoire ne nous entend pas. Elle nous regarde, nous scrute, nous limite, nous délimite ou nous surveille. Elle veille au grain. Au pire, elle nous écrase. Au mieux, elle nous instrumentalise en nous vendant sa liberté. Au mieux encore, elle nous craint. Sommes-nous donc à la maison dans cette histoire ? Lorsque même dans cette fichue entité qu'elle aura construite, la maison, nous sommes rarement en pleine possession de nos moyens, voire en sécurité. L'histoire ne nous attend pas, elle nous utilise pour qu'on l'aide à s'édifier, plutôt en silence, plutôt en cachette, plutôt à son service. Au pire, elle nous efface, elle nous occulte. Au pire encore, on en supporte ses pires soubresauts pour en cueillir quelques rares privilèges. Au mieux, elle retiendra quelques belles plantes ou compagnes vaillantes. Elle montrera parfois nos seins, en hommage à tous nos sacrifices. Et l'œuvre d'art qu'elle aura ainsi produite en sera une de ses plus belles citations. La liberté, qui ne guide le peuple que dans la fiction et la représentation d'un homme, de la croix, soutenu par un tiers qui, dans le réel, écrasera par le sang un des rares mouvements historiques qui ne portait pour le coup aucune ambiguïté quant à ses intentions féministes, quant à son rêve égalitaire. Ce mouvement qui, du commun, aura fait la commune.
Ce mouvement qui, du commun, aura fait la commune et qui, en effet, a été écrasé par notre tiers marseillais national, eh bien, c'est un rappel historique, mais il fallait peut-être y penser un petit peu. Alors, je passe la parole à Nadine pour de nouveau quelques aspects plus personnels.
Alors, violer, peut-être pas sûr à condition. Selon certains critères, ainsi en décident les lois, pas encore tout à fait nôtres. Agresser sexuellement, eh bien, quelle chance, vous n'aurez pas été violée. Mais alors, harceler sexuellement, pensez-y, vous bien. Angle mort du droit des femmes, depuis des siècles. Entièrement passé sous les radars. Dénoncé massivement lorsqu'on l'aura plutôt été violée ou agressée. Voilà la triste réalité. Le droit de cuissage, en termes d'imaginaire, conscient ou inconscient, comme en termes de passage à l'acte. Le droit de cuissage reste la règle, le privilège. La condamnation pour harcèlement sexuel, l'exception. Votre liberté de circulation, votre dignité, votre égal accès aux valeurs du travail sont-ce si peu de choses encore maintenant. L'immense succès du mariage de Figaro, il y a plus de 230 ans, n'y aura rien changé. L'histoire en retiendra l'attaque à la bourgeoisie, le signe précurseur d'une révolution française. Harcèlement sexuel ou révolution féministe aux abonnés des absentes et pourtant au cœur de la pièce, au cœur de l'affaire. Un délit de 30 petites années encore massivement ignoré, écrit pourrait-on croire pour mieux en masquer l'historique impunité. 30 ans. L'âge des femmes lorsque nous arrivons à peine à déconstruire nos illusions ou à prendre confiance en nous.
Oui, le mariage de Figaro, évidemment, Beaumarchais. Donc, cette autrice fait référence à l'histoire de la libération de la parole au XVIIIe siècle. Mais elle, de même que Scholderlos de Laclos le disait tout à l'heure, la libération de la parole, ce n'est pas encore la libération du corps des femmes. Et on va revenir sur d'autres histoires, bien sûr, mais avec, dans un premier temps, un autre texte qui souligne en effet le lien entre histoire individuelle, ségrégation sociale et prise de parole pour toutes. À partir de maintenant, on protège nos sœurs. Et par sœur, j'entends les invisibiliser, les silencier, quel que soit leur genre. Depuis le début de ce mouvement MeToo Théâtre, je respire mieux. Je marche dans les rues et je me sens plus forte, bien plus forte qu'avant. Dans les théâtres, parmi les visages masqués, je vois des sœurs qui se sourient, qui me sourient. La peur, c'était donc ça qui me faisait mal au ventre ? La peur d'être moquée, jugée, draguée ? Ben, c'est plus léger, la vie, sans la peur. Ce sera plus simple, sans la peur. J'aime mon métier, voilà ce qui me guide. Depuis toute petite, je raconte des histoires. C'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, une chose simple et innocente de petite fille, même si les histoires ne sont plus les mêmes. Jouer de la musique, chanter et raconter des histoires. Et puis, quand je commence la mise en scène, mon co-directeur de compagnie met des mots sur un début de malaise. Il me dit « Il faut faire attention. Tous les deux, on doit faire attention à avoir la même place. » Car il voit que dans les rendez-vous de production, je disparais et nos interlocuteurs ne s'adressent plus qu'à lui. Alors, metteur en scène, un métier d'homme? Un métier dans lequel une femme, jusqu'à il y a encore peu, n'avait pas de référence, peu ou pas de femme à qui s'identifier. Bon, elle a oublié Ariane, celle-là. Hein. Passons. Tout commence avec ça, la légitimité. Avons-nous notre place dans ce milieu, et si oui, en tant que quoi? Autrice, réalisatrice, metteuse en scène, comédienne, nous n'avions même pas de mots pour nous faire nommer jusqu'à peu. Autrice, metteuse en scène, on nous parlait de néologisme quand j'ai commencé à chercher le mot pour dire ce que je faisais. Ensuite, qui décide et que faut-il faire? Ces métiers dont nous rêvons semblent souvent inaccessibles, un rêve lointain que nous mettons des années à réaliser et que parfois nous abandonnons. Pour certaines, certains, c'est un vrai risque, un enjeu, un engagement, une vie entière que l'on consacre à son art, à y penser, à le faire, à le questionner. Ma grand-mère avait traversé l'Europe pour arriver en France et mon grand-père était mort d'avoir travaillé dans les mines du Nord. Je suis la première à être allée en Hippocagne et la deuxième génération qui ait connu un semblant d'ascension sociale. Alors oui, je fais le lien entre la ségrégation sexuelle et la ségrégation sociale. Quand on vient de ce milieu-là, le milieu des immigrés, quand on a entendu toute son enfance, adolescence et post-adolescence qu'on n'y arriverait pas, que l'art n'était pas pour nous, que c'était un milieu de cooptation élitiste réservé à celles et ceux qui précisément ont le capital social et culturel pour y évoluer, pour en faire leur métier, que c'est un vrai risque et une vraie folie de se dire que ce milieu nous choisira, qu'on y aura notre place de femme metteuse en scène. Alors on observe autour de nous les codes dominants et on tente de s'y conformer. On se sent toujours un peu plouc, mais on s'adapte. Et autour de nous, il y a une majorité d'hommes et même de femmes, blancs et blanches, validés, pour qui les codes ont été créés, suivis. Sur le plateau, parfois, on raconte nos histoires, mais c'est rare. On voit nos corps et ceux de nos ancêtres, mais c'est rare. Alors on supporte que les personnes en situation de domination économique et sociale parlent pour nous et nous disent quoi faire et comment. Et l'on tait qui son handicap invisible, qui ses origines immigrées, qui ses origines pauvres, qui son manque de culture dominante, qui ses histoires de racisme, de sexisme, de viol, d'humiliation. Et ces rares fois où nos histoires sont portées sur les plateaux, on en vient même à saluer l'initiative de celles et ceux qui s'approprient nos douleurs, nos peines et nos combats. Nous ne sommes pas souvent en situation de dire ou de décider, nous intégrons toutes ces données. Nous sommes en demande d'un espace de parole, d'un endroit pour montrer notre art, pour dire notre nécessité. Nous sommes souvent dans la précarité économique et pour en sortir, nous devons plaire, dire mais pas trop, et souvent nous taire, au risque de disparaître. Nous ne faisons pas partie de celles et ceux qui décident de la façon dont les choses se passent. Ainsi, à force de s'adapter à ce milieu blanc, masculin, intellectuel, élitiste, à force de ne pas y avoir vraiment de place, d'être silencieux, ben nous acceptons les violences, nous nous conformons à ce que l'on attend de nous, et il peut même arriver que nous en devenions complices. Tout est là, un milieu qui reproduit des dominations insupportables et dans ce milieu, un groupe de personnes à qui l'on a fait comprendre qu'il vaut mieux se faire petit ou petite et continuer à sourire. Heureusement, parfois, on arrive à créer un écosystème qui nous correspond avec celles et ceux que l'on reconnaît, avec qui l'on s'est reconnu. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi remettre en question un système fait de multiples violences, de multiples dominations. Donc il faut maintenant laisser une vraie place aux femmes, aux pauvres, aux transgenres, aux handicapés et à tous ceux et celles issus de l'immigration. Depuis quelque temps, les choses changent, les combats libèrent la parole. Les histoires sont racontées par celles et ceux qui sont concernés. Le théâtre évolue doucement et ne meurt pas dans la poussière d'une pensée sclérosée. Le théâtre s'intéresse aux récits manquants, il fait son chemin. Peut-être même qu'un jour, les histoires de bonnes femmes, ça sera une catégorie revendiquée et respectée, qui sait. Le jour où il n'y aura plus d'impunité, car nous occuperons les plateaux, les salles et les postes de décision. Le jour où nous ne serons plus dans la niche qu'on nous a assignée, celle d'artistes engagés, d'artistes noirs ou d'artistes féministes, le jour où nous serons et où sera la règle et non plus l'exception. Ce jour-là, le directeur de festival ou le comédien ovationné y réfléchira à deux fois avant de poser sa grosse patte sur la cuisse d'une jeune actrice, avant de passer sa main dans les cheveux de son assistante à la mise en scène, avant de l'insulter, traumatiser, jouer de son pouvoir, avant de violer ou d'humilier. Alors, histoire pagaie peut-être, mais quand même, histoire d'une façon de se relever, de se retrouver et d'être ensemble. Histoire aussi, pour toutes, pour tous, en effet, on vient de dire être ensemble, de poser les problèmes et de dire que, dans bien des cas, les situations ne sont pas individuelles, mais sont liées à un fonctionnement.
Le problème, ce n'est pas seulement Michel, dit Dim. C'est le fonctionnement du théâtre dans son ensemble. S'il y a des agressions sexuelles dans le milieu du spectacle, ce n'est pas seulement parce que notre société est fondée sur la culture du viol, c'est aussi le flou sur l'accès à la profession. Nous sommes beaucoup plus de comédiennes, pour beaucoup moins de drôles. Nous sommes en concurrence. Pour devenir comédienne, il faut tisser un réseau, des liens d'amitié. On se retrouve en réalité à devoir faire confiance à des metteurs en scène qu'on ne connaît pas. Parce que ce sont eux qui sont aux manettes. Mais les rapports de domination sont là et le champ libre est laissé aux agresseurs. Ils ont accès à nos corps, car nos corps est notre métier, en même temps qu'il est notre intimité. Je crois les personnes qui ont porté plainte contre Nazim Boudjena, Jean-Pierre Barraud, Jean-Marc Lanthéry, Jean Fabre, Guillaume Dujardin. Je crois les victimes du TNB de Rennes. Je crois les Callisto du cours Florent et toutes les autres et toutes celles qui ne portent pas plainte. Personne ne veut être victime. Nous n'avons aucun intérêt à cela. Que tout le monde se rentre bien ça dans le crâne. En plus de nous voler notre désir d'être sur scène, notre plaisir de jouer, notre envie de vivre, ils nous volent notre temps. Le trajet vers la plainte est long, et combien ne le font pas. Ce n'est pas un trajet pour prendre soin des victimes, c'est un rouleau compresseur, et on a envie d'abandonner à chaque étape franchie, avec chaque fois la mise en doute de votre parole. À quand la présomption de vérité pour les victimes? La fin de l'expertise psychiatrique des victimes? Ce ne sont ni la police ni la justice qui nous protègent. C'est d'être ensemble, soudés. Ce sont les structures qui se positionnent. C'est tout ce réseau souterrain de soutien qui doit être rendu visible et accessible. Apparaître. Je voudrais remercier mes amis et ma famille qui ont toujours été là. Le mouvement HF, égalité, femmes, hommes dans les arts et la culture. Les victimes, les personnes qui ont témoigné et celles qui n'ont pas eu la force de le faire. L'association contre les violences faites aux femmes au travail. à la commission soutien d'actrices et acteurs de France Associée, le collectif féministe contre le viol, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles et le collectif hashtag MeTooTheatre. Nous sommes la force. Les prédateurs doivent avoir peur de nous. Nous sommes là pour faire du théâtre, pour rien d'autre. Nous sommes une meute. Le théâtre doit remplir de nos récits, de nos voix, de nos cordes survivantes. Nous devons reprendre le théâtre. À nous de jouer.
À nous de jouer, et de lutter. C'était bien ce témoignage. Je vais y donner une suite parce que évidemment on pourrait lire tout le recueil, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais y donner une suite avec un texte qui est vraiment un texte de lutte. Alors vous allez me dire c'est peut-être un peu pour se faire plaisir, mais ça fait rien hein, justement. C'est un peu ce qu'elles nous ont dit les filles jusqu'à là. Il faut se faire plaisir. Alors ça commence comme ça. Et puis tu as su que tu n'étais pas seule. Et tu as appris qu'on pouvait te croire et te comprendre sans que tu apportes de preuves, de justification. Cette compréhension en un regard, en un temps où rien ne se dit, en un silence, en un sourire à peine, cette compréhension si juste et si douce, ça t'a fait entrer dans la lutte, comme ça, sans que tu le décides ou le proclames, non, juste comme ça. Comme si elle avait toujours été là, cette lutte, parce que tu ne peux plus faire autrement. C'est comme de prendre toutes tes sœurs et en même temps dans les bras. Tu n'as jamais su ce que c'était d'avoir une sœur et maintenant tu es là. Et tu es là avec tes grands bras qui sont tellement étendus, tu peux étreindre toutes tes sœurs. La lutte, ça fait peur parce que ça évoque la bagarre. Mais la lutte, c'est se battre en mieux. La lutte, c'est la joie. La lutte, ça t'augmente. La lutte, c'est bien. La lutte, ça te dit que plus jamais on ne taira le manque de respect, l'humiliation, l'agression, le viol. La lutte, ça permet de supporter la violence, un peu. La lutte, c'est pas seulement survivre, c'est pas seulement se protéger. Non, la lutte, c'est infuser l'idée que c'est toute la société qui va se questionner et que toutes et tous ensemble, on va terrasser le vieux monde et on va, bah oui, faire autre chose, construire un autre monde. La lutte, c'est dire ensemble qu'on s'appartient à soi. On n'est à personne d'autre que soi. La lutte, c'est dire « c'est mon sexe, c'est mon genre ». La lutte, c'est espérer que même ceux qui semblent irrécupérables changent. Et là, il vaut mieux avoir le sens de l'humour. La lutte, c'est drôle parfois. La lutte, c'est vivifiant. La lutte, ça répare. La lutte, c'est fatigant, c'est désespérant, c'est chronophage. Mais ça fait du bien. La lutte, ça ne va pas vite, ça ignore la vitesse, ça ne produit pas de vitesse. Il faut un temps pour penser, pour inclure, pour construire un monde plus valable que celui qu'on nous impose à la naissance. La lutte, c'est faire société. La lutte, c'est penser et articuler joyeusement une démocratie qui ne méprise pas les différences ni les fragilités. La lutte, ça t'apprend, toi, et ça t'apprend les autres. La lutte, c'est tant de visages. C'est une découverte ininterrompue et luxuriante. La lutte, c'est bien. Tu viens ? Il y a 1000 façons de lutter. Tu viens ? Et puisqu'on parle de la lutte, bien sûr, on va parler de la lutte sur les plateaux, on va parler de la lutte dans les rues. On va le faire, vous pouvez toutes et tous venir. Et puis vous vous souvenez, avec HK, on va rien lâcher. On va avancer. La lutte, c'est la joie.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien,
on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
On lâche rien, on lâche rien, et allez voir la vidéo de HK, c'est plein de guitares et de drapeaux rouges. On lâche rien, et moi je vous salue pour aujourd'hui, continuons le combat. La semaine prochaine, on changera, je pense, de thème. On reviendra à des choses un petit peu plus exotiques, mais toujours dans notre optique, vous savez, anticapitaliste, antifasciste, féministe, et on lâche rien. À bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.